Alors, Monique, on a du nouveau concernant ce délit de fuite sur la 20 Est.
Oui, je viens d'apprendre qu'on a localisé un véhicule suspect du côté de Longueuil, donc sur la rive sud de Montréal, un véhicule qui pourrait correspondre au délit de fuite qui est survenu vers 3h15 sur la 20 Est dans le secteur de Dorval. Pourquoi? Il semblerait qu'il y avait des dommages assez importants. C'est assez évident là, que le véhicule avait heurté quelqu'un. Il y avait même du sang sur la voiture, selon ce que j'ai appris. Donc, on avait fermé, je vous rappelle, la 20 Est dans le secteur Dorval, juste après le rond-point complètement parce que cette nuit, il y a un homme qui marchait en plein milieu de la voie sur la 20 qui a été heurté par un véhicule qui a pris la fuite. Donc, est-ce que ça va être moins long que prévu compte tenu du fait qu'on vient de localiser un véhicule, possiblement le piéton qui est toujours dans un état critique?
Incendie suspect dans Rosemont.
Vers 2h45, dans un commerce vacant qui serait cependant lié à un salon de coiffure qui est situé tout juste à côté, rue Bélanger, entre la 1ère et la 2e avenue. Cocktail Molotov qui a été lancé en direction de la vitrine. Il y a des dommages, mais on parlerait principalement à l'extérieur, donc la fenêtre, la porte. Par exemple, il y a plusieurs résidents qui ont dû être évacués. Rapidement, ils ont pu retourner se coucher parce qu'il était quand même 2h45. Il n'y a pas eu de blessés. Et on va analyser, entre autres, les caméras de surveillance. Il y a des enquêteurs des incendies criminels du SPVM qui vont se rendre sur place ce matin.
Bon, parlons de ce procès riche en émotions, c'est le cas de le dire.
Oui,
ouverture donc de ce procès pour meurtre d'une mère de famille de La Salle.
Oui, l'accusé dans cette affaire, Ahmad Némé, a 53 ans. Il est accusé du meurtre prémédité de sa femme, Catherine de Boucherville. Ils ont ensemble formé un couple pendant 19 ans. Ils étaient en instance de divorce. Monsieur soupçonnait à tort, c'est ce que la couronne a dit hier, que sa femme le trompait. Donc, il était jaloux et ça s'était vraiment détériorer la relation au cours des dernières semaines, envenimée. Et le 5 juillet 2012, il a commis l'irréparable et ça s'est passé. Et c'est ce qui fait de cette affaire une affaire épouvantable devant leurs enfants. Leurs deux enfants. Et hier, la couronne a débuté sa preuve avec l'appel 911 qui a été logé ce jour-là. Un appel, Paul, qui glacer le sang, là, c'est quasiment faible comme image à côté de ce qu'on a vécu.
Mais
ça
qui
nous
appelle?
A pratiquement coupé le souffle. C'est la fille de la victime et donc okay. De l'accusé qui fait cet appel-là. Elle appelle à l'aide. Son père vient de rentrer dans la maison en furie, vient de se diriger tout droit vers la salle de bain et s'est enfermé avec sa mère. Et là, sa mère crie, des cris de mort, et la pauvre adolescente est en état de choc. Elle pleure, elle crie, elle essaie d'expliquer à la répartitrice ce qui se passe. On n'entend pratiquement rien au départ, tellement elle est paniquée, mais la répartitrice réussit à lui soutirer quelques informations. On finit par décoder. Ma mère est en train de mourir, mon père devient fou, il ne veut pas divorcer. Et on finit par comprendre que c'est sa mère qui lui a crié de la salle de bain d'appeler les secours. Et là, la répartitrice la guide. On lui demande son âge. Elle répond qu'elle a 16 ans. Et on comprend en même temps qu'elle qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que l'adolescente, à un moment précis, entre dans la salle de bain. Elle ouvre la porte et elle voit sa mère inerte. Et là, c'est cri, Paul. C'est atroce d'entendre cet ado-là. Et elle dit, mon père vient de tuer ma mère. Ma mère est morte dans la baignoire. On sent sa peur, sa détresse. La dame lui demande où elle est. Et là, on comprend que la jeune fille est sortie dehors parce qu'elle est terrorisée. Elle a tellement peur. Elle a peur de son père. Elle le dit. Elle dit, j'ai peur, je veux pas retourner à l'intérieur de la maison. Et là, elle demande, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Et là, la jeune fille répond, oui, mon petit frère. Il a 13 ans. Il est autiste. Il est dans sa chambre. Et là, elle dit, est-ce que c'est possible pour toi d'aller le retrouver? Et elle a tellement peur qu'elle ne veut pas retourner à l'intérieur. Imaginez, elle dit, mon Dieu, madame, j'ai tellement peur, faites vite. Où est l'ambulance? Et c'est ce qui est épouvantable dans cet appel-là, c'est qu'on attend avec eux l'arrivée des secours en temps réel et on comprend qu'on est en train de vivre le pire moment de la vie d'une jeune fille, d'une famille, d'un drame épouvantable. Il n'y a aucun enfant qui devrait avoir à subir ça. Et la police qui finit par arriver, comme je vous dis, ça nous paraît une éternité. Et là, cette phrase, quand la répartitrice comprend que la police arrive, elle dit, mademoiselle, je vais vous laisser, vous pouvez aller vers les policiers. Et elle dit, laissez-moi pas. Comme si le contact qu'elle vient d'avoir, c'est le seul réconfort qu'elle a en ce moment. Et là, finalement, quelques secondes plus tard, on comprend qu'elle retrouve son petit frère. Et là, la ligne coupe. Le jury était saisi, vraiment, le figé. Ça a été très difficile, une entrée en matière assez rude, merci. Certains ont gardé les yeux fermés pendant un certain temps parce que c'était vraiment très difficile à supporter. Donc, c'est un procès qui va durer quelques semaines, bien entendu, à Montréal. Et l'accusé qui est dans le box n'a pas bronché une seule seconde pendant cet appel.
Merci, Monica. Tantôt, on arrive tout doucement à 6 heures et on va aller voir ce qui se passe du côté du pont Mercier.